Bonjour à toutes et à tous. La CGT est heureuse de vous retrouver dans ce podcast qui va nous permettre de vous donner les points saillants du CSE de juillet. Voilà, donc nous sommes avec Adeline. Bonjour Adeline.
Bonjour Aziz.
Alors Adeline, quels sont les sujets qu'on va évoquer ?
Alors pour ce CSE, on va vous informer sur une déclaration qui a été portée par l'ensemble des élus. Ensuite, sur le sujet conditions de travail et risques psychosociaux, on a trois sujets, le télétravail et la canicule, le service facturation et le compte-rendu de la commission santé, sécurité et conditions de travail. Ensuite, on verra la situation économique au premier trimestre. Et pour finir, dans les informations du président, on abordera le baromètre social.
Merci Adeline. Alors que les élus du CSE, de manière unanime, ont fait une déclaration commune. Tu vas nous en parler ?
Oui, cette déclaration concerne le changement de date des JPO. Donc initialement, les JPO étaient prévus le 17 septembre et on a une information sur la date du 3 septembre. Donc elle se tient, la journée porte ouverte se tiendra le 3 septembre. Donc cette déclaration avait pour objectif d'interroger la direction sur les raisons de ce changement et surtout de l'alerter sur les conséquences sur la charge de travail qui risque d'impacter les équipes associées à l'organisation des JPO.
Alors quelle a été sa réponse ?
Sa réponse, c'est déjà c'est une décision nationale et que la date du 17 était, selon le national, trop tendue en raison de l'enjeu important, notamment vis-à-vis de l'apprentissage, hein, puisque vous savez qu'à l'AFPA, on souhaite développer l'apprentissage et que les autres organismes de formation, notamment les CFA, font des journées beaucoup plus tôt dans l'année. Et donc, ils ont choisi le 3 septembre. En ce qui concerne la charge de travail, pour l'EDR, les équipes ne seront pas forcément impactées puisque la commande publique étant inexistante, selon lui, l'impact sera minime. Alors, bien entendu, pour la CGT, l'enjeu de l'apprentissage est important, hein, mais c'est difficile tout de même de ne pas s'interroger sur la relation entre cette décision de déplacer la date des JPO et les annonces prévues le 15 septembre.
Nous arrivons, Adeline, au deuxième sujet qui est les conditions de travail.
Oui, alors le premier sujet pour les conditions de travail, c'est le télétravail et la canicule. Donc le directeur régional a confirmé qu'aucune mesure d'assouplissement du télétravail n'était prévue en période de canicule. Cependant, il compte sur le bon sens des équipes de direction pour éventuellement mettre en place des mesures exceptionnelles et parfois individuelles si les situations le nécessitent. Donc pour la CGT, le télétravail n'est pas le seul levier pour prévenir les difficultés en période de canicule. Il en existe d'autres et d'autres aménagements sont possibles. C'est la raison pour laquelle à la CGT, on demande l'ouverture d'une négociation pour un plan de prévention plus large et beaucoup plus pérenne.
Alors Adeline, on va parler de la facturation. Est-ce qu'on a toujours de l'argent qui dort dehors ?
Oui, effectivement Aziz, depuis de nombreux mois, l'AFPA-PACA a de grandes difficultés à facturer les heures stagiaires. Le retard de facturation s'élève aujourd'hui à plus de 5 millions. Donc ça équivaut à 4 mois de facturation marché public et 10 mois de facturation alternance. Donc pour comprendre, le directeur régional a fait une immersion dans le service ADB et il a fait le constat qu'effectivement ça ne fonctionnait pas. Donc il a fallu quand même cette immersion pour que la direction admette ce que la CGT dénonce depuis plusieurs mois, à savoir que le problème il se situe à tous les niveaux finalement de cette chaîne, hein. Depuis l'établissement de la convention jusqu'à la facturation et notamment en passant par tous les actes administratifs lors du parcours de formation d'un stagiaire. Alors je vais te laisser la main Aziz pour que tu nous fasses un point sur le bilan de la commission santé-sécurité au travail, donc à travers trois thématiques, les situations à risque, l'absentéisme et la canicule.
Merci Adeline. Concernant les suivis RPS, 36 situations à risque en 2025 ont été recensées, dont 31 liées au RPS. Un chiffre stable, mais trompeur, parce que si les effectifs baissent, le risque, lui, ne baisse pas. Pire,
Il explose sur certains facteurs. Alors qui est touché, pourquoi et surtout que faire? On fait le point en 2 minutes chrono. Le constat. Les chiffres qui alertent. 36 situations à risque en 2025, dont 5 hors RPS. 12 déjà en avril 2026. À ce rythme, 2026 pourrait battre tous les records. 69% des signalements concernent des femmes. Pourquoi elles? On y revient. Métiers les plus touchés, formation, appui-service, accompagnement. Site le plus concerné, Marseille. La question qui fâche, pourquoi malgré les accords RPS-QVT, la situation ne s'améliore-t-elle pas? Les causes, ce qui pèse sur les épaules des salariés. Voici le top 3 des facteurs de risque. En premier, des rapports sociaux tendus, conflits, manque de coopération et de soutien. En deux, intensité et complexité du travail, toujours plus, toujours plus vite. En trois, exigences émotionnelles, surtout dans les métiers relationnels. Enfin, le lien avec l'organisation, les RPS, c'est une question de conditions de travail, de charge de travail, de management et de reconnaissance. Les manques, ce qui cloche dans la prévention. La prévention primaire est négligée. On soigne les symptômes, pas les causes. Les outils sont sous-utilisés. Évaluation des risques professionnels, évaluation des risques RPS, document unique d'évaluation des risques professionnels, programme annuel de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail, le PAPRIPACT, ils existent, mais pourquoi ne sont-ils pas vraiment appliqués? Pas d'évaluation genrée. Pourtant, la loi l'exige, au travers de l'article L4121-3 du Code du travail. Donc, le cri d'alarme de la CGT, c'est « sans action forte ». La fin de l'année 2026 risque d'être une année noire. Ce qu'il faut faire maintenant, écouter, former, protéger, agir sur l'organisation, rééquilibrer la charge, clarifier les rôles, reconnaître le travail et l'investissement, ça doit vous rappeler vaguement les préconisations de l'expertise Elabor. Le mot d'ordre, prévenir c'est mieux que guérir et ça commence par parler du travail réel. Et le mot de la fin, les RPS, ce n'est pas une fatalité, c'est un choix. Celui de ne pas agir ou celui de changer les choses. Alors que fait-on? On agit ou on attend la prochaine crise?
Et qu'en est-il de l'absentéisme, Aziz?
Oui, Adeline, parlons maintenant de ce sujet qui reste particulièrement préoccupant. En 2025, 23 absences ont été dénombrées. Le taux d'absentéisme s'établit à 6,06. À première vue, ce chiffre est en baisse par rapport à l'année précédente. Mais attention, cette évolution est à relativiser, puisque les effectifs ont eux aussi diminué. Ce qui interpelle surtout, c'est la durée des absences. En moyenne, chaque arrêt a duré plus de 51 jours. C'est considérable, et cela montre que le véritable enjeu n'est pas tant le nombre d'arrêts que leur longueur. En soi, le nombre d'absences n'est pas si important que ça, mais il indique par sa longueur qu'il ne relève pas de la bobologie, mais bien de maladies graves, de troubles psychosociaux tels la dépression, l'épuisement professionnel ou la maladie somatique. Autre constat, les femmes restent davantage touchées par l'absentéisme. Face à cette situation, les représentants du personnel demandent constamment à la direction de prendre des mesures pour endiguer ces longues absences. La direction met en avant un dispositif de suivi qui a pour finalité de sécuriser le retour des salariés en arrêt de longue maladie. Ces dispositifs vont dans le sens d'un meilleur accompagnement de retour, mais ils interviennent essentiellement une fois que l'arrêt est déjà installé. La question de la prévention en amont reste donc entière. Mais les premiers chiffres de 2026 viennent renforcer cette inquiétude. Sur les 5 premiers mois de l'année, le taux d'absentéisme atteint déjà 7,12, soit l'équivalent de 30 salariés à temps plein absents. Et la tendance ne semble pas s'améliorer, puisque les données des mois qui viennent annoncent une nouvelle hausse. Autre signal d'alerte, les arrêts de travail des managers augmentent fortement. Des chiffres qui rappellent que derrière les statistiques, il y a avant tout des femmes et des hommes, et qu'au-delà des procédures de retour, la prévention des risques, les conditions de travail et la qualité de vie au travail restent des enjeux majeurs.
On termine avec le sujet de la canicule.
Oui Adeline, tu as déjà parlé de la canicule au début, mais je vais compléter. Donc depuis mai 2025, c'est officiel, l'employeur doit anticiper les risques liés à la chaleur. Plus question d'attendre que le thermomètre explose pour agir. Alors comment s'y prendre? Pourquoi la région PACA est-elle en première ligne et surtout quelles solutions concrètes pour protéger les salariés? On fait le point en 2 minutes chrono. Le nouveau cadre tend au renforcement de l'obligation de prévention. En effet, le décret du 27 mai 2025 indique désormais si la chaleur menace la santé, l'employeur doit adapter l'organisation du travail. On aimerait donc passer d'une logique de réaction à une logique d'anticipation. Et ça, c'est une révolution à l'AFPA. La question, mais comment faire concrètement? La PACA, c'est une des régions les plus exposées. Alors pourquoi PACA? Parce que même s'il fait chaud partout, ici, la chaleur ne fait pas que passer, elle s'installe. Des températures élevées, plus longues, donc un défi pour les salariés et pour les employeurs. La demande de la CGT, c'est l'ouverture d'une négociation nationale et régionale pour adapter les mesures à chaque territoire. Le plan canicule, ce sont des mesures claires et anticipées. La CGT propose un plan avec adaptation des horaires, réorganisation des activités, équipement adapté, pause plus longue et plus fréquente, critères précis pour déclencher les mesures, par exemple à partir de 30 degrés en extérieur et 28 degrés en intérieur, tel que stipulé par l'INRS, information régulière des salariés. Ce plan n'est pas exhaustif. Le mot d'ordre, tout doit être prêt avant l'été. Alors, l'amélioration continue, c'est apprendre de chaque canicule. C'est la raison pour laquelle nous demandons un retour d'expérience systématique après chaque épisode. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui a coincé? Comment faire mieux la prochaine fois? L'objectif est bien sûr de renforcer le dispositif année après année.
Merci Aziz pour ce retour. On va maintenant passer au sujet économique. Alors, il n'y en a qu'un, c'est... La situation économique pour le premier trimestre, donc les objectifs fixés par la direction régionale ont été atteints. Donc ces objectifs, faut savoir que c'est un EBE négatif, hein, bien sûr. Hein, pour vous donner une idée un peu plus précise, au 31 mars, nous étions à un EBE à moins 3,6 millions d'euros. Donc, quoi dire de plus que simplement la direction avait anticipé le naufrage. Ben, effectivement, l'AFPA-PACA coule comme prévu.
Merci Adeline. Un petit mot sur le baromètre social. Qu'est-ce que c'est?
Alors, c'est une enquête. Alors, c'est un petit mot et un dernier mot d'ailleurs. C'est une enquête qui a été prévue par le national et mise en place par le national. On a des premiers retours, donc le directeur régional nous a donné les premiers retours. Il y a 62% de participation. La note globale qu'ont donné les salariés à l'AFPA, c'est 5,8 sur 10. Cette enquête, pardon, est encore en cours d'analyse, hein, puisqu'il y a de nombreux verbatims. Et donc l'AFPA a fait appel à un prestataire pour analyser tous ces verbatims. Ce qu'il en ressort principalement aujourd'hui, en tout cas les premières informations que nous avons, c'est que les salariés sont très attachés à leur entreprise, hein, très attachés donc à l'AFPA.
Ça, on le savait.
Oui, on le savait, effectivement, on le voit et on l'entend tous les jours. Mais il ne recommanderait pas à quelqu'un de venir y travailler. Donc ça en dit quand même long sur le ressenti des salariés au quotidien à l'AFPA. Donc, à la CGT, on s'interroge vraiment sur l'utilité de ce baromètre social, hein, puisque depuis plusieurs mois, voire années, la direction s'est vue remettre au niveau national et régional, dans certaines régions, des rapports d'expertise détaillés sur la situation en matière de RPS et de conditions de travail des salariés. Donc, quelle utilité, d'autant plus que même depuis ces expertises, on a pu voir la situation des salariés se dégrader encore. Donc ce baromètre social, est-ce que c'est pour la vitrine? Est-ce que c'est pour faire croire aux salariés que la direction se soucie de leur bien-être? Voilà, on reste dans ce questionnement.
Merci beaucoup Adeline. Je crois que nous arrivons au terme de cette restitution. Merci à vous tous et toutes de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous ainsi qu'à toi Adeline, au prochain CSE qui aura lieu le 23 septembre. Mais en attendant...
Mais passez de bonnes vacances, de très bonnes vacances.
Passez de bonnes vacances. Bonnes vacances à toi Adeline.
Merci, on se retrouve à la rentrée. Au revoir.